bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Et bienvenue avec Léa Cadeau, Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Fanny Bassureau.
Salut. Ville,
Alexis Lorossi.
Bonjour.
Bravo. Et notre invité, Hippolyte Giardot.
Bravo.
Bonjour.
Allez.
Bonjour Hippolyte.
Bonjour le matin.
Bienvenue.
Bienvenue l'après-midi.
Bienvenue à ce micro, puisque vous prenez plaisir à faire de la radio.
Tout à fait.
Régulièrement. Vous aimez ça? Vous avez toujours aimé la radio?
J'ai toujours aimé la radio. Je voulais faire de la radio quand j'étais tout petit. Et après, quand j'ai grandi, j'ai voulu faire de la radio. Et puis après, j'ai commencé à vieillir. Je voulais faire de la radio. Et puis un jour, j'étais très très vieux. Et puis quelqu'un est venu me dire, viens faire de la radio maintenant. T'es juste bon pour ça.
Bon, vous bah, allez, t'es bon. Comment ça, t'es juste bon pour ça? Vous
non, mais bon pour ça. C'est-à-dire que maintenant, ça y est. Maintenant, tu peux y aller, quoi, quand même. T'as un peu d'expérience, mon garçon.
Vous avez la carte.
Et éventuellement.
C'est ça, vous avez la carte.
En tout cas, j'ai la carte, oui.
Vous, bah oui,
déjà non, pour une certaine carte.
Le badge,
pour,
déjà.
Oui, déjà ouais, pour prendre l'ascenseur. Vous participez à la 6e édition du festival Culturissimo qui propose donc différents événements culturels, littérature, scène, musique. Les arts sont réunis, c'est gratuit. Et c'est dans toutes les villes, enfin dans beaucoup de villes de France, avec les centres Leclerc, parce que c'est une action, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du mécénat ou si c'est une action de com, mais en tout cas le résultat
les
est
deux,
là.
Les deux.
La culture est propagée d'une manière gratuite partout en France.
Oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, vous voyez par exemple que le mécénat qui est en train d'agir pour sauver ce qui reste de Notre-Dame participe aussi d'une certaine forme de communication, pour le moins. Et donc, en ce qui concerne Michel-Édouard Leclerc, oui, je pense qu'il a eu cette initiative parce que c'est un homme qui adore la culture, la peinture notamment, beaucoup. C'est un gros passionné de ça quand même. Et je pense qu'il a eu cette initiative toute bête de se dire qu'il y a des centres Leclerc à peu près partout. Il y a potentiellement des gens qui aiment la culture. Est-ce qu'on pourrait pas combiner les deux, quoi? Et donc, c'est ce qu'il fait. Et en général, on lit dans des structures qui sont celles de la municipalité ou parfois même juste à côté. Moi, j'ai déjà lu dans un gymnase qui était juste à côté d'un centre Leclerc. Les gens viennent. Effectivement, c'est gratuit. Et ils adorent entendre des histoires. Et c'est ça qui est formidable. Alors, pour nous, les comédiens, quand on lit...
C'est ce que vous allez faire, justement.
Oui,
donc, des
c'est ça qui est... Non, ça, c'est merveilleux parce que... La lecture, en fait, ce qui est pas mal dans la lecture, dans l'idée de la lecture, ce qui est pas mal, c'est qu'on emmène les gens dans un registre que moi je considère comme un peu hypnotique. C'est-à-dire que la première lecture, le premier contact qu'on a avec le texte, les mots, ça vient vraiment de notre toute petite enfance. Et notamment avec les histoires, les bedtime stories qu'on nous raconte pour nous endormir, etc. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément inconscient, complètement incontrôlé sur... je vais te raconter une histoire. Ce fameux « Il était une fois ».
C'est l'intime, et
ouais.
c'est l'art aussi premier, le fait
exactement,
de raconter.
Exactement, bien sûr, c'est le conteur. Et effectivement, quand on est là, même dans un gymnase, vraiment, il fait froid, il fait parfois... bon, c'est... Et on commence à dire, alors, voilà, je commence... Par exemple, j'ai lu Le Lambeau de Philippe Lanceau, qui a un bouquin quand même assez particulier. Et je sais qu'à un moment donné, je vais les emmener dans cette aventure qui est le livre de Philippe Lanson.
On va en parler évidemment et de ce que vous allez y faire et de ce qui va se passer dans ce festival Culturissimo, mécénat, communication, peu importe, mais ça fera du bien et c'est gratuit pour ceux qui vont en profiter.
Ça mérite d'exister.
En tout cas, exactement. On va en parler, mais d'abord parlons et voyons surtout si vous avez bossé votre dossier, Hippolyte Giardot. Il a changé à 12 ans.
Le prénom.
Ok, ouais. Voilà, ça c'est fait. Et tu sais au moins ce que c'était avant?
Je me souviens plus.
Fred, je crois. Frédéric.
Oui. Non.
C'est ça?
Ouais, bravo.
Mais
il y a des dossiers alors.
Comment? Ouais. Ah ouais, des casseroles.
Non, on a internet.
Comment
on a fait le tri, il n'y a pas tout, rassurez-vous.
Ok, merci.
Alors déjà, est-ce qu'on change réellement de prénom ou d'abord sur votre pièce d'identité, vous appelez Frédéric?
Il y a les deux maintenant.
Ah,
oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle un certificat de notoriété qu'on peut faire à la mairie, etc. Enfin, qu'on pouvait faire maintenant, c'est beaucoup plus compliqué.
Connu sous le nom d'Hippolyte
Giardot.
Ouais,
c'est ça. Donc, t'es obligé de le rajouter parce que parfois t'es payé comme Hippolyte ou bien tu prends un avion pour un film, c'est Hippolyte. Donc, il faut que ce soit aussi sur la pièce d'identité, ouais. Des trucs comme ça.
D'accord.
Et sinon,
qu'est-ce qui vous plaisait pas dans Frédéric?
Rien, ça n'a rien à voir avec le fait que ça me plaisait pas. Ça a à voir avec le fait qu'à cette époque, donc peut-être 12-13 ans, oui, un truc comme ça, on avait pensé avec des camarades du même âge, dans une, voilà, que nos parents n'avaient pas le droit de nous nommer. Et c'était à nous de nous nommer.
Ça c'est génial.
Voilà. Et donc c'était
j'adore.
La crise.
Mais l'idée elle est super.
Non, mais c'était une époque. Voilà, on était en 67.
C'est le comble de la rébellion, voilà. Quoi. Je ne t'appartiens pas.
Voilà,
je...
tu vas te nommer, on va te nommer.
Et le choix d'Hippolyte, c'est quand même pas imprévu.
Alors, bon, alors par contre, notre méthode était totalement aléatoire. On était assez jeunes, on s'amusait. On s'amusait beaucoup. Et donc, le matin, on prenait un bouquin, n'importe lequel, on l'ouvrait. Et il y avait, par exemple, Octave. Tu t'appelles Octave aujourd'hui? Ok, prends Octave. Et hop. Et le soir, on disait, non, Octave, franchement, c'est pas pour toi, laisse tomber. On était en tout, on était cinq personnes. Et puis un jour, moi, j'ai pris Hippolyte. Le soir, on dit, réessaye-le demain, c'est pas mal, Hippolyte. Troisième jour, c'était Hippo. Puis après, je suis rentré chez mes parents, puisque j'étais en vacances avec des potes. Et j'ai dit, voilà, maintenant, je m'appelle Hippolyte.
Et ils ont accepté cet ordre?
Alors, vous savez, accepter que son enfant se dénomme pour se renommer, c'est un truc compliqué. Maintenant que je suis papa, je me dis, ouais, effectivement, ça serait peut-être compliqué. Mais
qu'elle vous dise, je m'appelle plus.
Ouais,
ça.
Que voilà, et qu'on me dise, bon bah.
Anna,
bah, voilà, bah, je dirais oui, effectivement. Mais cela dit, ce qui était drôle, c'est que les atavismes sont nombreux. C'est-à-dire que par exemple, l'autre jour, j'étais là, c'est un enterrement. Il y avait toute ma famille de quand j'étais petit, et donc ils m'ont tous appelé Frédéric. Ils me connaissent très bien en tant qu'Hippolyte, certes, mais ils m'ont tous appelé oh Frédéric.
Et mais c'est finalement, là aussi.
Mais si je peux me permettre, ce qui est marrant, c'est que moi aussi, dans ma tête, je me disais, bah oui, je répondais comme Frédéric. Tu vois, ça devient à ma famille.
Non, mais ça devient un code d'intimité maintenant, ceux qui vous appellent Frédéric. Font partie
en tout cas,
d'un autre cercle que ceux qui vous appellent Hippolyte.
C'est ça, un code d'intimité, disons, quelque chose qui appartient à un ancien temps.
Non mais n'importe qui dans la rue qui ne vous connaît pas, que vous ne connaissez pas, peut vous dire « Salut Hippolyte » et vous pouvez même douter en disant « Mais est-ce qu'on se connaît ou pas ?» Il vous a juste reconnu.
Ouais.
Alors quelqu'un qui dans la rue vous appelle Frédéric, là vous avez toutes les raisons de vous retourner parce que vous savez que ce sera intime.
Sauf à partir d'aujourd'hui.
Voilà, à partir du moment où Nagui a commencé à faire ce truc, c'est un peu baisé quoi. Je me retournerai pas davantage, disons que je connais cette personne.
Que regardait-on généralement à la maison chez les Girardeau?
La messe?
Non.
À la télévision, tu veux dire?
Oui, à la télé.
La météo, les infos,
le cinéma,
le jour du Seigneur?
Non.
Des films?
Non, un genre d'émission bien précis.
Littéraire?
Politique?
Non, oui. Les émissions politiques.
Ah, oui.
Vous n'aviez pas le droit de regarder.
Non, on n'est pas. On n'est pas question de droit. On n'avait pas tellement. On n'était pas tellement branché sur la télé, surtout. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait deux trucs, effectivement. Il y avait la Coupe du Monde en foot et puis les débats politiques au moment des élections. Voilà.
Ah donc, même pas les infos, même pas le 20h?
Si, sûr, mais on s'en... Enfin, moi, mes frangins, on s'en fichait un peu, quoi. On n'était pas branché du tout sur la télévision.
Et alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans les débats politiques?
Ah, ben, c'est les personnages. Il y a une théâtralisation.
Mais c'est de l'art oratoire.
Oui, parce que les. Maintenant, je trouve qu'on est un peu. C'est mal foutu maintenant par rapport à la. Comment dire? La dramatisation n'existe vraiment qu'au dernier moment de l'élection présidentielle. Et c'est un peu
le
dommage.
Le débat d'entre deux tours.
Ouais. Ça, alors que moi, je trouvais qu'avant, la télévision, c'était vraiment un moyen de rentrer un peu, de savoir un peu à quoi ressemblaient les gens. Il n'y avait pas de réseaux
sociaux,
pas de choses comme ça quand même.
Est-ce que c'est la télévision qui a changé ou est-ce que ce sont les hommes politiques qui n'ont pas le même art oratoire? Je pense à Georges Marchais qui était à l'époque le plus spectaculaire. Spectaculaire.
Non, mais déjà sur scène, il était spectaculaire.
Vous voyez, vous dites sur scène.
Ah oui, parce qu'à un moment donné, quand tu fais un meeting, t'es sur scène. Il était déjà spectaculaire. Il y a quand même des capacités d'emmener des foules. Quand vous regardez le discours de Mitterrand qui se penche en avant sur son pupitre comme ça pour parler à une foule entière alors qu'on a l'impression qu'il s'adresse à une personne, c'est du talent. C'est du talent oratoire, effectivement.
C'est de la com aussi.
C'est ça le talent oratoire.
Et est-ce que vous jugez
que Macron... On peut pas tout réduire à un mot qui serait la com. Mais ce que je veux dire, c'est que le talent oratoire fait partie, effectivement, d'une forme de communication.
Mm-hmm. Est-ce que vous trouvez Macron est bon
Macron, il a un truc qui est spécial dans la bouche, un peu comme s'il allait un peu, pour moi... pleurer. Vous savez, comme les enfants.
Oui,
mais pourquoi tu m'embêtes? Il y a quelque chose comme ça qui manque, qui effectivement fait que, au lieu qu'il passe par-dessus avec une certaine autorité, en disant voilà ce que je pense et voilà ce qu'il faut que. Voilà. Il y a que des. Oui, mais je crois que. Ça va se passer comme ça.
Hippolyte. Je ne suis pas son avocat, mais là, vous parlez de sa dernière intervention sur Notre-Dame de Paris.
Depuis le début, c'est comme ça. Une sorte de masque.
Là,
qui est un masque,
presque
d'impitoiement.
Les 5-6 minutes où il a parlé sur Notre-Dame de Paris.
J'ai pas entendu.
Il était dans cette émotion, mais on ne peut pas faire autrement.
Non, mais je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler d'avant, parce que je n'ai même pas vu cette intervention sur Notre-Dame. Je pense qu'il y a quelque chose, et ça c'est quelque chose de psychanalytique, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est très très vivant chez lui, et donc sa communication est un peu complexe. Je pense qu'il est beaucoup mieux dans les discours, il n'est pas bon, mais par contre quand il est dans les débats, il est très capable, parce qu'il est brillantissime, il est malin comme un singe au niveau de la rhétorique.
De l'impro,
ça lui fait plaisir.
La rhétorique est brillante. La rhétorique ne suffit pas à créer ce qu'on a, le fond. Ça n'est pas vrai.
Quel personnage de Disney, j'ai bien dit des personnages de Disney, ont demandé un autographe à Hippolyte Girardot?
Les sept nains.
Dingo.
Aladdin.
Plutôt.
Non.
Clarabel.
Non.
Et qui a fait ça?
Alors, ancien ou moderne?
Ancien.
Ce sont des animaux ou ce sont des humains?
Winnie, Tigrou.
Dumbo.
Ça fait partie du Roi Lion?
Non.
Simon et Pumba?
Non, avant.
Fantasio.
C'est non. Timon d'ailleurs.
C'est qui Fantasio?
C'est les Bourriquet. Fantasio, c'est les balais.
Cette génération-là un peu?
Fantasio.
Ouais.
Les Aristochats.
Des animaux. Alors non, mais cette ambiance-là, ouais.
C'est un dalmatien.
Ils sont deux.
Rocky,
c'est trop mignon.
Tic et tac.
Ah bon, merci.
Vous ne savez pas?
Non, je ne suis pas au courant de ça.
Bah, c'est votre fille. C'est votre fille qui nous a raconté ça.
Ma fille.
Elle a dit qu'elle s'est rendue compte de la notoriété de ses parents lorsque, en promenade à Disneyland, vous avez carrément des personnages de Disney viennent vous demander un autographe. C'est carrément le monde à l'envers.
Ouais, ouais. Retire la tête pour, alors, pour Michel, s'il te plaît.
Si, je vois ce qu'elle veut dire. C'est vrai.
Ça doit être.
Je connaissais pas les personnages, mais oui.
C'est vrai que ça doit être bizarre pour un enfant.
Mais non, ce qui est bizarre, c'est surtout. Vous savez, quand vous êtes dans une grosse marionnette, c'est pas facile, etc. Il faut faire le malin avec les enfants, il fait chaud, tout ça. Puis moi, j'étais donc avec elle, qui était complètement fascinée. Et puis j'entends une voix à côté de moi. Ouais, j'aime vraiment ce que vous faites. ça m'a fait super bizarre.
Ils ont tellement pas le droit de parler, en plus.
Oui, mais en même temps, on voit pas, bien sûr, quand ils parlent ou pas. On voit pas. Oui. Donc à un moment donné, ils font comme ça avec la tête. Ils bougent la tête et bougent les bras. Puis ils me disent, ah, dis donc, j'aime vraiment ce que vous faites. Hein, je vois, comme ça.
Vous les avez dénoncés après?
Dénoncé, non?
Non, mais c'est pas lequel était tic, lequel était tac, donc il a pas pu dénoncer. Ouais.
C'est pas mal.
Il y a les deux maniaques.
Comment a justement réagi Hippolyte Girardot lorsque sa fille Anna lui annonçait son désir,
pitié,
sa décision de devenir comédienne?
Pitié, c'est évanoui. Il ne fait pas ça.
Non.
Il a pleuré.
Tu es sûr? Pas Chambac.
Sinon, c'est bon, non, je l'accepte.
Il change de prénom.
C'est pas pitié ne fait pas ça, mais vous l'avez déconseillé de le faire, en tout cas.
Ouais, je trouvais que c'était. Mais. Maintenant, après, c'est toujours pareil, les légendes. On y croit jusqu'à ce que quelqu'un arrive en disant « Pas du tout, ça s'est pas passé comme ça, etc. » Et donc, en fait, avec ma fille, elle n'était pas spécialement, me disait-elle l'autre jour, qu'elle n'était pas spécialement folle de vouloir être comédienne, mais elle adorait faire, comme tous les enfants, des petits spectacles, des machins, etc. Et petit à petit, elle s'est amusée à faire rire. Et évidemment, quand elle a commencé à faire rire, elle a trouvé ça formidable. Et je crois qu'il y a eu un déclic, je ne sais pas, il faudrait l'interviewer, il faudrait qu'elle vienne à une émission comme
elle
la vôtre.
Ah bah
qu'elle revienne alors
plein de fois.
Ah bah qu'elle vienne encore une fois. Bref, non mais pour savoir c'est quoi un déclic qui fait que je sais que l'autre jour elle m'a dit non mais au départ je voulais pas et puis.
Non mais pardon, ce qui nous intéresse là, ce n'est pas le déclic dans la carrière d'Anna Girardot. En effet, on en reparlera avec elle. C'est votre mise en garde. Vous aviez peur de la violence de ce métier?
Oui, bien sûr. Surtout pour les femmes, c'est pire que les tennis women quoi.
C'est-à-dire?
Ça dure très 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 peu de temps en fait.
Bah comment ça?
Non, écoutez-moi.
On embrasse les Renault déjà. Écoute.
Écoutez-moi.
Ouais, on va pas parler des exceptions, on va parler de.
Au niveau du pourcentage, c'est une blague quand même. Il faut quand même se rendre compte que c'est une blague. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, plutôt joli et plutôt sympathique et pas trop naze, vous pouvez commencer à travailler assez tôt, vers entre 19 et 22 ans, par exemple. Et puis, ça peut durer comme ça jusqu'à 35 ans, dans les meilleurs des cas, d'accord? Il y a de la concurrence. C'est-à-dire, petit à petit, ça s'écrème. Si on prenait tous les espoirs,
chez les hommes, c'est pas le cas.
Moins, vachement moins. Les hommes résistent beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de rôles d'hommes. Bien sûr, on le sait bien.
Ça, c'est un autre problème.
Exactement le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a plus de rôles d'hommes, ça veut dire que donc on a plus besoin d'acteurs hommes, donc ça dure plus longtemps pour les hommes.
Parce qu'il y a peut-être plus de scénaristes hommes et plus de
la société est très masculiniste, point barre, c'est tout. Elle n'est pas du tout équitable.
Ça va changer.
Vous avez ici, on est cinq. Excusez-moi, je vois pas beaucoup de nanas.
Mais pas n'importe laquelle.
Ah oui, attention.
Non, c'est pas de raison.
Mais je suis d'accord.
Elle a mis les imés.
Non, mais j'entends complètement que la société est masculiniste et qu'en effet, ça explique que les comédiennes, elles ont une durée de vie beaucoup plus courte que les hommes et qu'en plus, passé 35-40 ans, on va donner quelques exemples de comédiennes, mais c'est vraiment des exceptions en réalité.
Et c'est difficile pour les femmes notamment parce que la beauté, l'esthétique, est très importante parce que on est dans un mode de représentation et que ça a toujours été comme ça. On voit bien que la plupart des modèles qu'on voit dans les peintures, les machins, c'est souvent des femmes beaucoup plus que des hommes quand même, il faut le savoir. Et donc, à un moment donné, les femmes, on n'en veut plus parce qu'elles sont trop vieilles et c'est ainsi que ça se passe. Celles qui résistent, ce sont les femmes drôles ou les femmes qui ont fait des carrières à une époque où elles ont enchaîné des chefs-d'œuvre. Ouais. Quand on parle aujourd'hui de Catherine Deneuve, on ne peut pas ne pas penser à tous les chefs-d'œuvre qu'elle a enchaînés alors qu'elle était très jeune, dans les années 60. C'était extraordinaire. Commencer avec Jacques Demy, continuer avec Polanski et d'autres. Mais enfin, excusez-moi, qui aujourd'hui pourrait se prévaloir d'avoir une telle carrière? Qui? Personne. Absolument personne. Donc à partir du moment où le cinéma donne à une femme comme Catherine Deneuve, et c'est tout à fait justifié, une place aussi importante dans l'imaginaire collectif cinématographique, elle ne peut pas disparaître. Mais une par rapport à plein d'autres qui, à ce moment-là, je pense alors, qu'autour là, d'elle, étaient sur... capables okay, d'autant.
Donc là, nous étions sur les opportunités de carrière ou sur la difficulté de ce métier. Est-ce que le papa, aussi, lorsqu'il a sa fille qui lui parle de ce métier-là, pense, sans tomber dans les affaires Weinstein avant qu'elles arrivent, aussi à protéger sa fille d'harcèlement, de droit de cuissage, de comportement de réalisateur, de producteur, trucs comme ça? Est-ce que vous
ça
avez...
serait génial.
Est-ce que ça vous est passé par la tête, ça?
Non, ce qui serait génial, c'est qu'effectivement, l'histoire de harcèlement soit vraiment cantonnée au cinéma. Alors là, on serait dans un monde meilleur. Mmh. On dirait aux filles, n'allez jamais faire du cinéma, c'est un monde perdu. Non, c'est partout. Mmh. Le harcèlement est partout. La seule chose qu'on peut dire...
On sait qu'il y a un jeu de séduction entre le réalisateur et l'acteur.
N'importe quelle boîte, non, mais c'est comme ça.
Homme, femme, peu importe dans quel ordre.
Non, mais c'est pas... Non.
Mais il y a un jeu de séduction. Pas, il faut séduire celui ou celle qui réalise. Non. C'est même vous le séduisez.
Non,
quand
mais
vous...
c'est pas la même chose. Je suis désolé, c'est pas la même chose. La société étant ce qu'elle est, c'est-à-dire que quand vous avez un homme qui est de toute façon qui a plus de pouvoir qu'une femme, par principe dans la société, peut exercer du harcèlement sur une femme, c'est très différent que le contraire. Excusez-moi, Anandigui, mais ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. La société, de toute façon, favorise les hommes. Et c'est comme ça que ça se passe. Et tant qu'on n'aura pas changé ça, de toute façon, le harcèlement ne changera pas. C'est aussi bête que ça. Donc dire à sa fille, écoute, le cinéma, oui, c'est plein de gens pourris, etc. Ça existe, mais ça existe un peu partout. La seule chose qu'on peut dire, c'est tu as le droit de dire non. Voilà, apprends à dire non. Mais apprends à dire non à tout le monde, tout le temps. C'est un truc de base pour apprendre. C'est dire non. Faire une carrière, par exemple, c'est dire non. Et ça, c'est des choses... Pour elle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dire non à un film, c'est une façon d'exercer son pouvoir, de dire « Ok, moi, je ne veux pas ça, je veux autre chose. » Et combien, en tant que jeune femme et jeune actrice, etc., elle peut être, comment dire, séduite par des films où on pourrait la payer très bien pour faire des rôles idiots. Une façon de dire non. Moi, je trouve que c'est du harcèlement, comment dire, esthétique. Ben, elle a raison de dire non, pour moi.
Parlons donc du festival Culturissimo, cette sixième édition.
Ah ouais, bien sûr, c'est vrai.
Georges Marchais sort de ce corps.
Oh, non,
festival Culturissimo.
Sixième. Liliane.
Ah oui, c'est mais il était en Corse. Il était en Corse quand
ouais,
il était
en Corse, exactement.
Festival Culturissimo avec une affiche incroyable. Il y a, alors, j'ai pas tous les noms, si je vais quand même essayer. Camélia Jordana, Nicolas Maury, Laurent Stocker, Les Innocents, Mathias Malzieux, Lio, Jean-Philippe Ricci, Pigalle, j'adore.
Nicole Garcia.
Yarol Poupeau, Marie Buñuel, Blandine Bellavoir, pardon, Ronan Luce, on est dans la partie musique. Antoine Elie également sera présent. Jeune prometteur, Dominique Blanc, Nicole Garcia, Michel Vuillermoz, Irène Jacob, Clotilde Courau, Jacques Bonafé, tout ce beau monde réuni, il y a aussi Bruno Puzzulu, tout ce beau monde réuni pour, alors, certains faire des lectures, d'autres des concerts, il y a encore une fois toutes les activités possibles et imaginables. Vous avez parlé tout à l'heure de la lecture, de la transmission et le choix de ce livre de Philippe Lançon, journaliste et plume à Libération,
entre autres, et à Charlie,
qui, suite aux attentats, a écrit Le Lambeau, très rapidement après les attentats.
Oui, en fait, je pense qu'il s'est mis à pouvoir écrire un peu après sa reconstruction, entre guillemets, qui a duré très longtemps, et la décision...
Il expliquait que son visage, il a été blessé.
Oui, il a été extrêmement physiquement sur son visage, et en fait, il y a tout un travail de chirurgie absolument dément avec cette femme qui s'appelle Chloé, et qui est sa chirurgienne, et qui est un personnage tout à fait fascinant. Quoi. C'est un livre assez fascinant, mais moi, je ne choisis pas les livres, je laisse vraiment je laisse vraiment le comité de sélection de Culturissimo le faire, parce que je pense qu'ils ont une grande habitude de leur public. C'est un peu bête de dire ça, mais à quel endroit et comment tel acteur avait... C'est vraiment un truc de casting pour eux, c'est-à-dire
quel acteur est bien pour tel livre.
C'est eux qui... Moi, alors là, pour le coup, je serais incapable de vous répondre parce que j'ai pas... Je reçois la commande, entre guillemets, je dis moi, ça me va très bien, je suis très heureux avec ça, formidable, mais... Je sais pas pourquoi ils décident ça. Ils me connaissent, ça fait combien, 3 fois que je le fais, je crois, et donc ils pensent que ça fonctionne bien.
Voilà. On va rappeler que Philippe Lançon était donc présent à la conférence de presse, à la conférence de rédaction pardon, de Charlie Hebdo au moment des attentats, lorsque les tueurs ont fait éruption dans ces locaux. Vous allez bouger, ça se passe où physiquement, concrètement pour vous?
Alors je fais une lecture donc du Lambeau à Olonne-sur-Mer. Ça, il y en a qui aiment bien manger des huîtres. Puis après, je vais à La Réunion pour lire le nom de la rose.
Vous êtes tranquille, quoi. Sam Delaune et l'île de La Réunion.
Oui, parce qu'en fait, l'île de La Réunion, ça, il y a 16 centres Leclerc à l'île de La Réunion. Ouais. Bon. Donc,
Et c'est la France. Il faut. On parle beaucoup ici, notamment de pièces de théâtre. On est très parisien dans la manière dont on parle de l'actualité culturelle. Mais là, c'est important de préciser qu'il n'y a pas que la France métropolitaine, mais c'est aussi l'outre-mer qui est concerné par cette opération.
Bien sûr, il y a aussi l'outre-mer qui est concerné. Ce qui est marrant, c'est qu'à La Réunion, c'est un peu loin, donc faut rester un peu de temps, donc faut faire plusieurs lectures. Là, ce sera le nom de la route. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai pas envie de faire seulement des lectures. Je vais faire des conversations, je fais peut-être un petit atelier, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal. C'est comme un stage, quoi, à faire pendant une semaine. C'est super. Moi, je trouve ça vraiment. J'ai de la chance.
La lecture, ce sont des morceaux choisis. Est-ce que là, vous n'avez pas lire tout le livre. Est-ce que c'est vous qui les avez choisis ou est-ce que là, encore une fois, c'est le.
Non, on me propose et j'essaye de voir si. Peut tout faire ou bien s'il faut un peu couper quoi, parce que quand c'est trop long en lecture, si on lit trop longtemps le public décroche, c'est compliqué. Il faudrait une bonne longueur, je trouve, c'est entre 50 minutes et 1h05 maximum, 1h05. Sinon faut un peu de musique, faut un peu un truc en plus quoi.
Mais quoi, en une heure on lit une cinquantaine, soixantaine de pages à peu près?
Cinquantaine, je dirais.
Est-ce qu'ensuite vous dialoguez, vous avez l'habitude de rester, de traîner un tout petit peu avec les personnes qui sont venues assister à cette lecture?
Oui, parce qu'après, vous savez comment ça se passe. Souvent, les gens, ils vous entendent, ils trouvent que le livre, c'est pas mal, et ils l'achètent. Et en fait, on se rend compte que, ils vont commencer à lire, mais ils vont arrêter. Parce que les livres sont un peu trop gros, en général, très, très fouillis. Et puis, ça prend du temps de lire, c'est vrai. Alors, c'est juste un départ, en fait. C'est comme si, moi, je trouve, quand je viens lire, c'est comme si je donnais un départ en disant, vous voyez, c'est super de lire. Il y a vraiment un truc qui se passe. Alors après, c'est retrouver chez soi ce plaisir, quoi. Alors,
les gens qui vous demandent de venir chez eux pour continuer la lecture.
Pour finir le travail.
Ouais, super idée, ça.
Non, mais c'est mettre en appétit, en effet, le potentiel lecteur. Mais ça veut dire que lire, c'est un travail, ça se prépare, c'est une langue. Là, on parle
faut le lire avant chez soi, Blanson, au moins une fois à voix haute, voir ce que ça donne.
C'est une musique.
Oui,
aussi.
Parce qu'il y a des livres très, très bien, mais qui sont impossibles à lire, par exemple.
Ouais. Ça veut dire que là, vous vous êtes trouvé.
Lançon, ça marche
au bon endroit
très, très
avec lui,
ouais. Très très bien à lire, c'est une voix très intime, mais il fait pas des phrases non plus trop alambiquées. On voit très bien quand on arrive à la fin de la phrase, on voit très bien d'où on était parti. Ça marche très très bien au niveau de la lecture. Ça n'a rien à voir avec la valeur littéraire d'un texte, mais en tout cas, ça a à voir avec le fait qu'on puisse communiquer.
Et ça va être un succès, cette 6e édition Culturissimo, Tom Villa.
Oui, parce que c'est partout en France et c'est une très bonne idée. D'ailleurs, c'est chouette de parler de ça parce que ça permet de parler de la province. La province,
cet univers incroyable.
Cette partie de la France méprisée par les Parisiens, sauf en juillet-août et les week-ends de pont. La province, cet endroit où il n'y a jamais de bouchons, sauf en juillet-août et les week-ends de pont à cause de ces connards de Parisiens. Cette étendue saugrenue, étrange, où le café ne coûte pas 5 euros. Cette partie de l'Hexagone où l'on dit bonjour quand quelqu'un vous dit bonjour, même si vous ne le connaissez pas. La province, ce lieu où les voitures s'arrêtent pour laisser passer les piétons qui veulent traverser. Même quand il n'y a pas de passage piéton, et même si les personnes ne veulent pas traverser. Cette contrée où quand il neige, il neige en fait, on n'en fait pas des éditions spéciales sur BFM TV. Et encore, ça c'est que les points négatifs. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'en province, on arrête d'avoir du mépris pour les Parisiens. Parce que si on est Paris, non mais on n'a pas choisi, tu veux dire, tu peux pas dire que vivre dans 17 mètres carrés c'est un choix. À Fort Boyard c'est une épreuve. Donc
c'est vrai, on n'a pas choisi.
Non mais c'est incroyable d'ailleurs ce racisme anti-parisien. On dit toujours que les Parisiens ils aiment pas la province, pardon, mais c'est plutôt les provinciaux qui aiment pas Paris. Bien sûr que la province c'est pas que l'amour est dans le pré et les ch'tis à Las Vegas ou à Syphilis, mais il y a un moment, montrez-nous vos bons éléments, vos meilleurs représentants. On vous interdisait à tonton de faire de la télé, mais souvent quand t'entends les provinciaux qui disent oui, sous prétexte ils ont tout et qu'on n'a rien, mais pour qui ils se prennent, et nous aussi on a l'électricité, mais faut qu'on arrête de se faire la guerre. Aujourd'hui on est en 2019, tout le monde a la télé, internet, un téléphone, on a tous une gare ou un aéroport pas loin de chez soi, on peut tous commander n'importe quelle connerie à l'autre bout du monde qui arrive dans ta boîte aux lettres en 48 heures.
Ça va, quoi. Vous avez la mer et la montagne. Nous, on a Montmartre et Paris-Plage. On peut faire un break. Est-ce que, pour une fois, on peut défendre les Parisiens, s'il vous plaît? Les clichés sur les Parisiens. Tous les Parisiens qui font toujours la gueule dans le métro. Déjà, c'est pas vrai. Il y en a qui sourient. Il y en a même qui chantent. Ceux qui font la manche. Il y en a jamais un qui fait la gueule. Les Parisiens sont stressés. Ça aussi, c'est un cliché. C'est pas les Parisiens qui sont stressés. C'est les banlieusards qui bossent à Paris et qui ont peur de rater leur RER pour entrer chez eux. Le Parisien, il est détendu, hein. Il a le métro, le bus, le tramway. Quand il y a plus, il y a taxi, il y a Uber. Quand il y a plus, il y a Vélib. Trottinette, quand il n'y a plus, t'insultes un flic qui te raccompagne chez toi, bon, 48 heures après. Mais c'est toujours ça, les clichés sur les Parisiens, ça, c'est bon, on peut arrêter. Les Parisiens et le brunch, ça va, on a le droit de manger des croissants, des œufs et du saumon à 15h30, c'est interdit. Quand tu manges du pâté à 8h30, on ne juge pas, donc chacun fait ce qu'il veut. Toujours les mêmes discours en province, et nous, pour 300 euros, on a 200 mètres carrés. À l'achat, hein, à l'achat, même pas en location, bah oui, bah, nous, quand tu cherches pour louer un appart, on est 25 postulants pour le même placard à balai. Il y a un moment, c'est normal que ça soit comme dans Affaires conclues. Oui, j'ai 800 à droite. 850 à gauche, 900 milieu, allez, adjugé, 950 la place de parking. Non mais ça va. Donc arrêtons de nous faire la guerre, arrêtons de nous taper dessus, de nous en prendre aux Parisiens, arrêtons de taper sur les provinciaux, unissons nos forces pour péter la gueule à ces salauds de Belges. Bonne émission.
La bande originale. C'est totalement gratuit, mais la coupe du monde. Écoute, Guillermo n'est pas là, on va en profiter. Il sera là demain. Il va se venger, mais c'était fait la coupe
après
du monde
de football.
Après-demain, ça passe à une vitesse, c'est le fou. Temps, c'est dingue. Reparlons avec Hippolyte Girardot donc de cet art de la communication, de la transmission, de donner l'envie, parce que c'est ça aussi le point de départ, c'est que la culture soit abordable et que la culture vienne là où se trouvent ceux qui n'ont pas toujours accès à cette culture, mais c'est de donner envie. Vous avez dit, on sort d'une lecture, on a envie d'acheter le livre, on sort d'un concert, on a envie d'acheter le disque. Ouais.
Et puis, il y a lecture et lecture, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous les livres ne se valent pas, et c'est tout à fait normal.
Enfin,
et...
ne touchent pas les mêmes personnes aux mêmes
endroits.
Non, parce
ne, que... ne se valent pas, vraiment. Moi, j'ai aucun problème pour dire que tous les livres ne se valent pas. Il y a des,
il y a
des ambitions.
Il y a bien des potes qui vous ont dit, j'ai adoré ce livre, lis-le, et vous, vous n'avez pas aimé. Donc,
oui,
chacun peut avoir.
Non, mais il y a un moment donné, il y a un certain niveau d'ambition littéraire, voilà. Ouais. Ah. Bon, ça veut pas être, je veux pas être élitiste pour autant, mais enfin, c'est vrai qu'il y a des livres qui essayent d'avoir une certaine ambition littéraire, et c'est pas des livres qui spécialement peuvent toucher des personnes qui très facilement se disent « c'est pas pour moi ». Et ça, c'est vraiment le truc de base quoi, sur la décentralisation culturelle, entre guillemets. Si, c'est pour vous, mais c'est vrai qu'on ne vous a peut-être pas aidé facilement à écouter cette langue ou à la faire entendre. Pour vous, ça, peut-être le français, c'était l'école seulement et des devoirs, et c'était peut-être pas marrant. Et donc, réussir à transmettre ce plaisir, le plaisir de goûter à quelque chose qui paraîtrait un peu difficile. Et ça, c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire?
Un peu d'exigence.
Oui, mais je pense que ça, c'est important. Et c'est à ce niveau-là que, grâce à notre notoriété, nous, on peut faire ce petit boulot.
Et je crois que c'est important de dire que tout ne relève pas de l'œuvre littéraire, que tous les textes publiés ne sont pas littérature et que c'est pas grave en soi. Il faut lire ce qu'on a envie de lire, mais il faut aussi rencontrer des gens qui peuvent vous donner envie d'accéder à autre chose. Voilà. Et après, goûter et se dire c'est pour moi ou c'est pas pour moi, j'aime ou j'aime pas, ça c'est pas grave. Mais au moins, comme à la cantine, quoi. Essayer une bouchée, deux bouchées.
Non,
mais c'est vrai.
Non, tout à fait vrai. Ouais.
C'est un rapport assez simple, mais c'est la nourriture spirituelle, c'est aussi ça.
Et ça, grâce à Leclerc, des magasins un peu partout en France, de belles promos pour Pâques en ce moment. Profitez-en, profitez-en.
Je parlais pas tant de Leclerc que de la lecture.
La drôle d'humeur d'Alexis de Rossignol.
Bravo. Vous êtes sûr d'un geek, c'est maintenant?
Oui.
Est-ce que bonjour à tous. Non, parce que j'avais idée de faire un personnage, là, cette semaine. Et puis hier, j'ai pas vraiment dormi. Je me suis dit, est-ce que t'auras pas plutôt l'air d'un con, en faisant ce personnage? Alors, je sais que le ridicule ne tue pas, mais, ça fait quand même mal à l'ego, parfois. Alors, je sais pas, je le fais ou pas?
Oui.
Ça dépend de vous,
en fait. Oui.
Ouais.
Moi, j'ai un peu peur. Bon.
Parce que j'ai même un accessoire, tu vois, ce qui est quand même un peu...
C'est le mot. Oula! Une perruque.
Je ne sais pas si elle est bien mise. C'est très radiophonique, je sais, mais... Vous pouvez me relancer, Nagui?
Mais bien sûr, voici la drôle d'humeur d'Alexis Lerossignol.
Eh bien, pas tout à fait, monsieur Nagui. Moi, je suis Franck sans chute. Je suis un copain, un rouquin. Et il m'a demandé de le remplacer. Rapport à ses ennuis de santé.
Et qu'est-ce qui arrive?
Hémorroïdes. Il a mangé indien hier soir et ce matin il peut pas faire de vélo. Il m'a envoyé un selfion, des tomates cerises. J'ai dit donc, rouquin, t'es en avance sur la saison. Hein. C'est des sensibles dans la famille. Et question gaz, faut pas dormir sous la tente avec lui. Hein. Enfin, bon, je vous passe les détails.
Vous êtes humoriste, vous?
Oui et non. Enfin, moi, j'étais chanteur, puis maintenant, j'ai des manèges. Je fais dans les fêtes de village et la foraînerie, quoi. Mmh. Mais dans le métier, l'humour, c'est un peu une deuxième nature. C'est pour ça que les gens reviennent. Franck Sans Chute, ça vient de là, c'est un pseudonyme. Mon vrai nom, c'est Francky Soleil. Je suis de la descendance à Madame Soleil. Oui. Ma spécialité à moi, c'est les faits divers. Voilà. Donc, du coup, j'ai préparé une petite chronique autour des faits divers récents, quoi. Je peux commencer ?
Ah, oui.
Bah, on attend que ça.
Est-ce que vous connaissez Gobi ? Gobi, c'est un petit chien qui courait dans le désert de Gobi, en Chine, et qui a rencontré un triathlète. Et il l'a adopté, ce triathlète. Mm. Voilà. Après, ils ont couru 4 jours ensemble, et il a fait le marathon de Paris la semaine dernière. Voilà, c'est Franck Sans Chute, des histoires sans chute.
Elle était mignonne, celle-ci, j'aime bien.
Fait divers numéro 2. Mmh. Okay. Vous avez vu, la semaine dernière, Tiger Woods a gagné un grand tournoi, oui. 11 ans après son dernier titre. Il paraît que c'est le plus grand comeback de l'histoire du sport. Je pose la question, est-ce que ça nous intéresse vraiment ? Parce que Laurent Voulzy sort des albums tous les 11 ans et on dit pas c'est le plus grand comeback de l'histoire de la musique. On dit merde, il a remis ça, Laurent Voulzy.
Non.
Si, c'est vrai. Non. Le golf, c'est pas violent. Question endurance, tu peux fumer des clopes entre les trous. Il y a même des parcours avec des trous et des drapeaux dedans. Il y en a 18, tu vois. Donc tu peux pas les rater. Puis les golfeurs, ils portent même pas leur sac eux-mêmes. Ils ont des caddies pour faire ça. Vous connaissez les caddies ? C'est des gens qui sont payés pour porter les sacs. Et ils gagnent 10% des gains du golfeur. Ça fait quand même pas mal. Y a pas de chute, c'est Franck Sans Chute. Et merci. Puis le golf, c'est pas vraiment un sport. T'as déjà vu des sports où tu peux encore gagner à 43 ans ? Eh ben, il y en a quand même pas mal. Du coup, ça nique ma chute. Mais je m'en fous, je suis Franck Sans Chute. Fait divers, toujours. Assad El Melouki, ça vous parle ?
Non.
C'est un jeune qui a marché pendant 418 km entre son village du Doubs et le siège de Nike France à Saint-Ouen pour déposer son CV. Moi, je connais bien Saint-Ouen, je fais la foraine au moment de Noël, tous les ans. Sauf qu'en arrivant, ils lui ont dit « Bravo, bel exploit Assad, mais on n'a rien pour toi ». Rien, même pas un petit job à la cafette. Ils lui ont dit « Faudrait voir avec le siège européen ». À Amsterdam. Qu'est-ce qu'il a fait, mec ? Il y est allé ! Et en passant, il a brûlé un cierge. À Notre-Dame. En même temps, faut les comprendre, chez Nike. S'il suffit de marcher de chez toi au siège d'une entreprise que t'aimes bien pour décrocher un job, on n'a pas fini. Il y en a qui vont dire « Je suis pas un migrant, je viens postuler chez Nike. Je veux être Nike Air Travel Manager. » Franck Sans Chute. Ça vous a plu ?
Oui.
Non,
oui.
C'est pas grave. Je suis Franck Sans Chute. Mon truc à moi, c'est les bides, les silences et les malaises. Pour ceux que ça intéresse, je monte mon manège au premier festival de la Coupe Mulet à la brasserie du Borinage le 18 mai, dans la petite commune de Boussu, en Belgique. Boussu, comme le Boussu de Notre-Dame. Elle est pas mal celle-là, non ? C'est Franck Sans Chute. À bientôt, messieurs dames.
Merci. La bande originale, Maggie, sur France Inter.
Parlons de musique. Musique avec Hippolyte Girardot en 74. Vous écoutiez Neil Young. I went to the radio interview, but I ended up alone at the microphone.
Ouais, j'adore ça. J'ai été à l'interview de la radio et j'ai terminé tout seul devant le micro.
Ouais, c'est le texte. Exactement, c'est les paroles de Neil Young, mais tellement bien écrites, c'est les chansons de Neil Young. Ça vous renvoie dans quel moment de votre vie, écouter Neil Young, Harvest et autres albums ?
Ouais, tout ça, c'était un moment où, par rapport à la musique, c'était un peu la fin de quelque chose quand même, moi je trouve. On revenait un peu à des trucs un peu basiques, genre le folk, qui était passé par toutes les phases, un peu la country music avec Neil Young. Et c'est quelque chose d'un peu désespéré, et je pense que quand on est...
Il y avait des textes qui n'étaient pas les mêmes non plus dans ces chansons, par rapport à ce qu'on entend maintenant très... pop, rock, peu importe, mais il y avait des véritables prises de position.
Mais en même temps, c'était un peu.
Mais
un peu la fin.
Springsteen, les, Neil Young.
Moi, je pense que vraiment la fin des années 60, c'est une réalité qui correspond à. Qui s'est complètement terminée, je pense, en 74, 75, après la fin de la guerre du Vietnam, tout ça. Et je pense qu'il y a un truc qui s'est passé. Et quand t'es ado à ce moment-là, en fait, tu sais qu'il y a un monde qui part, quoi. Mmh. Et un monde qui correspond aussi à ce que t'aimais ou dans lequel t'as baigné quand t'étais jeune. On a eu une chance culturellement, je trouve, assez incroyable dans les années 60, quoi, qui est beaucoup plus compliquée aujourd'hui, je trouve, culturellement. Bah, pour moi, hein, peut-être parce que je suis trop vieux, donc ça n'a aucune importance.
Oui, parce que la culture rap apporte beaucoup.
Mais même la culture rap. Tu vois, c'est y a quelque chose dans la culture rap qui continue à être intéressant. Évidemment, il n'y a que là qui se passe des choses. C'est là où se trouve toute la musique populaire
c'est
aujourd'hui.
C'est là où les textes et les plumes s'expriment.
Oui, ça existe. Et à la fois, tu es vraiment dans un tel contexte commercial que ça devient... c'est très prégnant quand même, le commerce dans la musique rap. Très, très, très prégnant. Vachement plus que ce qu'elle a pu être.
Ça de parler fringues déjà.
Mais oui, non, mais même.
Non, mais c'est autre chose.
Si on regarde, si on regarde le contexte pop,
il gagne beaucoup moins que ce que gagnaient les chanteurs des années 70. Ah oui.
Oui, mais c'est dès que ça vient majoritaire en termes de musique, la musique urbaine, forcément, ça va être touché plus par le marketing. Et
les disques rapportaient des millions dans les années 70, 80.
C'est pas le cas aujourd'hui.
Oui, justement. Après, ce sont des produits dérivés, on les voit plus parce qu'il y a du marketing, du merchandising et ils gagnent moins sur la vente de disques. Alors qu'à avant, c'était dingue.
Je pense que le marketing au niveau de la pop musique des années 60 est très très différent de celle qu'il y a aujourd'hui, clairement.
Et on est au milieu des années 70 justement, pour évoquer avec vous Hippolyte votre première expérience au cinéma. Vous incarnez, vous êtes le fils de Claude Riche dans La Femme de Jean. Une première expérience à une époque où le cinéma c'était pas vraiment votre dada. Vous, c'était plutôt la lecture,
la musique.
Ouais, comment beaucoup. Vous vous retrouvez dans ce film?
Un concours de circonstances qui ont fait que, en fait, une amie de ma maman connaissait, ma mère connaissait dans son travail la sœur de Yannick Bellon, Lolé Bellon. Donc elle connaissait Yannick Bellon, qui cherchait un jeune homme pour incarner le fils de Claude Riche. Et elle, un jour, me voyant à la maison, a dit à sa sœur, tu devrais rencontrer le fils de... Jeanne Girardot, tu verrais, il est pas mal, je crois, pour ton rôle. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait.
Donc c'était sur un regard, un physique qui
était crédible. Ouais, une façon de parler, une façon d'être. J'avais les cheveux jusqu'aux épaules. On parlait comme... C'était quelque chose de... J'étais très spontané, j'avais aucun
filtre. Et ça vous a plu?
Et c'était très marrant à faire, oui.
C'était très... Et ça vous a vraiment donné envie?
Non, pas du tout. J'ai pas du tout eu envie. J'étais aux Arts Déco. Enfin, je voulais faire les Arts Déco, etc. J'étais pas du tout branché là-dessus, mais c'était très marrant à faire comme expérience, quoi.
En 1989, vous écoutiez Néné Chéri. Ou pas? Là, ce que vous aimez dans cette chanson, c'est le côté je croise les bras. Ah pardon, vous lisez le petit
jingle. Non, c'est juste, c'est vachement... Voilà, la chanson est hyper connue, donc ça marche.
C'est le côté je croise les bras, je regarde l'autre, je narque.
Stunt, ouais. Buffalo Stunt, c'est ça. C'est une attitude où on croise les bras comme ça. Ça vient d'un joueur de football américain qui a toujours posé comme ça. Un mec super baraque. Et il y avait quelque chose dans l'attitude. Et Néné Chéri, je l'avais rencontré parce que c'était une copine d'une copine qui jouait dans un groupe de jazz, free jazz, qui s'appelait Reprig and Panic. Et je l'avais rencontré à Londres. Et c'était vraiment une bande de types et de nanas incroyables. Incroyables.
Okay, dans quel sens?
Incroyable, c'est-à-dire moi, c'est des gens que j'avais jamais vus avant. C'était des gens qui étaient complètement inventifs, qui créaient des fêtes, une musique totalement différente. C'était de Massive Attack, tout ce Bristol Sound, etc. Et c'était vraiment, pour moi, j'avais été deux fois à Londres avec cette copine. Et je l'avais rencontré. C'était un grand choc culturel pour moi. C'était mon festival de Woodstock à moi, quand même. Et donc, quand elle est arrivée en solo avec Buffalo Stunts, j'étais amoureux, quoi. C'est pas compliqué, j'étais juste amoureux.
Le 89, Hippolyte, c'est Un monde sans pitié d'Éric Rochant, un film qui fait basculer votre carrière. D'autant que le personnage que vous incarnez s'appelle Hippo. Et donc là, forcément, il y a... une sorte de confusion qui peut s'installer.
Non, mais c'est vrai.
Bien sûr que c'est vrai. On peut le raconter de mille façons, mais le drame, c'est pas une tragédie. Hein. Le drame, c'est vraiment le drame. C'est comme on écrit un scénario, on dit tiens, ça serait bien qu'il y ait un moment dramatique dans l'histoire. Et on va dire ce qui va arriver à ce type, c'est qu'il va faire un rôle qui va devenir emblématique et on va lui donner son prénom, même pas son prénom, on va lui donner le diminutif de son prénom dans le rôle.
Plus aucune protection.
Et on va le, tu vois, il va être imprimé comme ça. Ça, c'est un moment dramatique. Et donc,
ça, vous ne l'avez pas vu venir forcément. Vous ne pouvez pas savoir que.
Je suis un gros naïf.
Non, mais maintenant, c'est peut-être.
Non, mais même ça avant, fait avant des... c'est impossible à savoir.
Non, mais ça fait partie des conseils que vous pouvez donner maintenant, c'est de dire attention.
C'est-à-dire que. Non, ce qu'il y a, c'est que.
Ne joue aucun rôle d'Anna. D'Anna.
Oui. N'accepte mais... pas de te faire appeler Hippo, Anna, s'il te plaît.
Exactement, c'est plutôt
ça. N'accepte
pas. Parce que, bon, Hippo, c'est un truc. En fait, c'est une faiblesse de la part de Rochon, quoi, qui à un moment donné m'a dit, est-ce que ça te dérange si j'appelle, je sais pas comment l'appeler le personnage, ouais. si on l'appelle Hippo. Et j'ai dit non, je m'en fous, quoi, sans même réfléchir. Ça, donc, c'est le seul conseil que je peux donner en général, c'est réfléchissez un tout petit peu sur le futur d'une décision que vous prenez tout de suite. Hein, ce qui est d'ailleurs que tout ce que vous faites a des conséquences. Voilà,
ce qui marche aussi pour traverser la rue.
Pour tout. Tout ça. En fait, on se rend compte. Pour tout. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à devenir Hippo, quoi.
Et vous dites que c'est un rôle qui aurait pu faire exploser complètement votre carrière et que ça n'a pas été le cas.
Exploser dans le sens ?
Dans le sens d'être.
La détruire ou la lancer ?
Non, de rendre vraiment votre carrière exceptionnelle. Dans l'interview, vous dites voilà, vous auriez pu. Moi, l'idole du moment, j'aurais pu devenir un acteur incontournable.
Ah oui, par rapport à ça. Ouais, on dit ça parce qu'on se rend compte que la notoriété était folle, quoi. Mais je pense que justement parce qu'elle était folle, elle était incapable à. Comment dire, à thésauriser, quoi.
Ouais.
Je pense qu'elle était incapable.
Ouais.
En 2004, vous écoutez Brian Wilson, ex Beach Boys.
Ah ouais, le fameux Good Vibrations. Ça.
C'est un fou furieux lui aussi.
Non mais ça, je pense que vous connaissez beaucoup mieux l'histoire de cette chanson, l'histoire de l'album que moi, Nagui, parce que c'est vraiment un truc exemplaire sur ce que c'est, sur la musique, quoi, sur ce moment-là quand même.
Mais c'est surtout, vous parlez tout à l'heure d'expérience et d'art, il en est devenu fou d'ailleurs en faisant des albums avec des sons d'animaux, avec des... parce que là on est dans un truc très surfeur californien.
Mais en fait si on écoute vraiment dans le détail, il y a 10 choses, il travaille avec un truc qu'on appelle le theremin, qui est un instrument qui reproduit
des sons de voix pratiquement.
Et donc il est complètement fou. Et ce qui m'intéressait quand j'avais entendu ça et qui d'un seul coup était comme un album retrouvé, un peu ce qui est arrivé avec dernièrement l'album de Marvin Gaye.
Ouais.
C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des espèces de trésors cachés dans des tréfonds, des studios où on pense toujours qu'on va retrouver un album de démo de Lennon et McCartney en train d'inventer tous leurs futurs albums. Ils ont passé une soirée ensemble, ils ont inventé tous leurs futurs albums. On espère tous ce genre de choses.
C'est la limite du genre aussi, quand on pense, quand on retrouve les chansons aussi dont Alain Bashung n'avait pas voulu pour le mettre sur son album. Ou Johnny aussi, et qu'on ressort des albums posthumes alors qu'il n'avait pas voulu les publier. On peut aussi se poser la question.
Absolument terrible, terrible, terrible. Et c'est comme si on disait à quelqu'un,
c'est bizarre.
Même quelqu'un qui n'est pas totalement habillé, ça fait rien, sors dehors, fais la photo. Mais attends, je suis même pas. On s'en fout, fais la photo. Ça, c'est vraiment horrible. Quoi. Alors que dans le cas de Brian Wilson, c'est autre chose.
C'est quand même.
Et on vous retrouve en 2004, Hippolyte, au cinéma, dans des films d'Arnaud Desplechin, que vous avez rencontré en fait sur les tournages d'Éric Rochon. Donc il y a une sorte de boucle qui se fait.
C'est-à-dire que le premier film que j'ai fait avec Rochon, c'était un court-métrage, et en court-métrage, celui qui cadrait, c'était Arnaud Desplechin, qui était son camarade en fait de promo à l'IDEC, quoi. Et c'était Christophe... est-ce que c'est Christophe Barbier ? Il y a un réalisateur qui s'appelle Barbier, qui faisait partie aussi du truc. C'est lui, c'était le machiniste dans l'histoire. C'était une bande de surdoués, quoi, quand même, un peu, faut le voir. Comme
et
ça.
Vous dites que c'est Arnaud Desplechin qui vous a redonné goût au cinéma, à un moment où...
Non, mais c'est-à-dire que...
Vous avez fait
Arnaud,
confiance, ouais.
L'intelligence d'Arnaud, c'était de me donner un rôle qui, effectivement, personne d'autre me l'aurait donné. L'aurait offert. Il a une confiance en moi qui était une confiance qui datait effectivement de ce que j'avais pu donner avec Rochon dans Un monde sans pitié et qui n'avait pas du tout été exploité depuis. Et il a trouvé un moyen de le faire sans pour autant imiter, entre guillemets, le personnage qui avait été écrit par Rochon. Et c'est là où il a été génial, quoi, pour moi.
En 2009, vous écoutez Fiona Apple. Wait till I get him. Artiste particulière parce qu'on a l'impression qu'elle est forte et à la fois fragile.
Elle est hallucinante, cette Fiona Apple. Elle était très malheureuse avec le réalisateur de Magnolia, là, Paul Thomas Anderson. Elle a beaucoup souffert et elle a une puissance, je trouve, un truc de sensibilité incroyable, quoi. C'est elle qui a fait ce magnifique générique de The Affair, a cappella, qui est bouleversant. C'est une petite chanson bouleversante. J'ai pas trouvé, c'est ça que je voulais qu'on écoute, mais j'ai pas trouvé.
On a l'impression que la musique est beaucoup plus présente dans votre vie, d'ailleurs, que ce que l'on peut imaginer, et qu'elle a presque un impact sur votre sensibilité ou votre humeur.
Bah, c'est-à-dire que oui, moi je peux vivre sans cinéma, c'est aucun problème. Je pense que je peux vivre aussi sans peinture, mais sans musique j'aurais vachement de mal quand même. Parce que j'ai pas la mémoire absolue de ce que j'ai écouté. Je serais incapable dans ma tête de retrouver la voix, l'orchestration de Fiona Apple comme ça. J'aurais un souvenir, mais un souvenir un peu vague. Donc j'ai besoin de l'entendre.
Mais est-ce que vous, en fonction de votre humeur, de l'état moral dans lequel vous êtes, vous écoutez telle ou telle musique?
À fond, j'ai très... Oui, bien sûr, à fond. C'est essentiel. Si je fais un voyage, par exemple, pour aller faire les lectures et que j'ai oublié mon casque et la musique, il faut absolument que j'en rachète un à la première station. J'ai besoin de ça. C'est un support très fort. Mais je pense que c'est un support très fort, encore une fois, parce que c'est un support de l'enfance, quoi. Pour moi, c'est tout ce qu'on est. Tout ce qu'on est lié à l'enfance.
Vous racontez bien les histoires, vous les transmettez bien, mais de vous entendre parler de musique, ça donne envie aussi
Par exemple, j'ai fait un truc que j'ai adoré dans l'émission avec les Belges, par Jupiter, c'était de pouvoir faire des raps faire une chronique rappée, quoi. Et pour moi, c'était le kiff absolu. Enfin, je pouvais vivre ça.
Ah, vous voulez être musicien, en fait.
Oui, moi j'ai essayé, j'ai fait de la musique, je me prenais pour Mick Jagger, j'avais un copain qui se prenait pour Keith Richards, on était comme des oufs, quoi. Ça a duré une après-midi, mais c'était un après-midi, mais unique dans ma vie quand même.
Surtout, c'était déjà pris. Hein.
À venir, Sam Delon est à La Réunion. Peut-être qu'il va rapper le livre de Philippe Lançon. On parle de Festival Culturissimo, la 6e édition, parce que c'est pas que au mois d'avril, hein, ça s'étale aussi au mois de mai. Enfin,
ça va jusqu'en. Oui, je crois que ça se termine même début juin, je crois que ça commence. Ça finit.
Il y a plusieurs dates comme ça éparpillées. Il y a beaucoup de villes. Partout en France, et justement, comme ça se passe en province, Tam Villa nous l'a rappelé tout à l'heure. On a demandé à Martin Palisse, bonjour Martin.
Bonjour.
De venir à ce micro. Vous êtes membre du Conseil national du, on dit quoi, Syndéac?
Syndéac.
Syndéac, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Directeur du Cirque, mais avec un S, à Nexon en Limousin. Vous êtes le premier artiste à avoir pris la direction de ce pôle national des arts du Cirque. On voulait parler avec vous de la culture en province.
En région.
Ouais, c'est de dire. C'est
dans les territoires.
Comme s'il y avait. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Mais c'est de là que naissent beaucoup d'événements et c'est de là que naissent beaucoup de projets.
Bah, beaucoup de choses se passent partout en France et heureusement.
Mais avec un sentiment de on en parle moins, où il y a moins d'aide, où il y a moins de participation.
Oui, parce que Paris est la capitale et la vitrine en fait. Mais sachez que beaucoup de créations en matière artistique, tout ce qui se passe en danse, en théâtre, en musique, la plupart du temps et en très grande majorité, se déploie d'abord en région, dans plein de théâtres, dans plein de lieux de danse, de cirque, et viennent ici. Exclusivement pour des questions de notoriété, de visibilité.
Oui, on parlait avec Anne Charrier des 7 nominations aux Molières du Canard à l'Orange, qui est née d'abord au Festival d'Anjou. Donc ça prouve bien ce que vous dites. C'est un petit exemple, parce qu'on en a parlé hier, parmi tant d'autres. Pourquoi la décentralisation ne fonctionne pas en matière culturelle?
On ne peut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Elle a fonctionné, ça fait 40 ans qu'il y a eu une politique.
Elle a fonctionné ou elle fonctionne?
Elle fonctionne encore.
Ouais, après, il y a des scènes nationales partout.
Il y a des théâtres partout. Il y a 13 pôles nationaux cirque. C'est un des derniers labels qui a été créé par ce ministère. Elle fonctionne. Néanmoins, aujourd'hui, elle est face à une difficulté qui est qu'il n'y a plus de politique culturelle ambitieuse. Elle fonctionne avec aussi un déséquilibre majeur entre ce qui est investi en Île-de-France et ce qui est investi globalement dans toutes les autres régions de France. Ça, Françoise Nyssen l'avait dit et c'était une chose bien qu'elle a dit.
Quelle est la proportion?
J'ai pas le chiffre en tête, mais très criant. Vraiment, je voudrais pas donner un chiffre faux,
c'est
mais
c'est du simple au double, c'est du simple au triple, c'est 10 fois, c'est quoi?
À la louche.
On s'approche facilement du simple au double déjà.
Qu'on ait une.
Ça donne quelque chose. L'Île-de-France, le reste de la France.
C'est lié à quoi? Est-ce que les compagnies s'installent en Île-de-France parce qu'elles se disent qu'elles ont plus de chances d'avoir des
subventions? C'est lié parce que ici vous avez une capitale et que vous avez une capitale avec un opéra qui est un très très grand établissement et parce que globalement le système aussi culturel français a été accaparé par une forme d'élite. Puisqu'on dit souvent, on parle d'élitisme, et c'est ça. Le problème, c'est pas l'élitisme, je crois, en matière artistique. C'est l'élite qui s'en empare et qui la conserve à Paris.
Est-ce que c'est parce que les médias sont aussi concentrés à Paris ou parce qu'il y a plus de monde dans le bassin parisien et que donc il y a plus de public potentiellement pour des salles de spectacle ?
Il n'y a pas plus de public parce qu'il y a du public partout. Les salles françaises sont remplies, les théâtres sont assez remplis partout en France. Évidemment, il y a une concentration, mais ce chiffre-là a été mis en rapport avec la région et le nombre de citoyens et de citoyennes qui vivent en Île-de-France et dans le reste de la France.
Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que quand on est journaliste, par exemple, on sait que plus on va trouver du travail plus facilement si on s'installe à Paris ? Est-ce que quand on est comédien, on n'a pas aussi envie d'être à Paris pour travailler, exercer et éventuellement fonder des collectifs ?
Envie de jouer à Paris parce que les médias sont présents. C'est là où vous parlez de tout ce qui se passe. Voilà qu'on a une répercussion médiatique. Mais quand vous devenez comédien, acrobate, danseur, musicien, vous travaillez beaucoup plus facilement partout en région qu'en Paris. Paris, c'est extrêmement dur de travailler.
Ouais. Alors, il y a des régions qui sont spécialisées dans des domaines. On pense au théâtre et Avignon, évidemment. La danse et Montpellier. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est une réalité?
Non, c'est pas un cliché. Vous avez à Auch aussi, qui est une grande capitale du cirque contemporain. Vous avez Charleville-Mézières, qui est une capitale internationale de la marionnette. Il y a plein de villes comme ça, où il y a des projets très très forts qui se développent depuis de nombreuses années.
Quand on parle du cirque, je pense à son côté itinérant. Et là, on ne peut pas dire que le cirque se trouve à un endroit. Il est fait pour se balader, le cirque. Il est fait pour aller de ville en ville. C'est les comédiens de Charles Aznavour.
Tout à fait. Ouais. Le cirque travaille beaucoup avec des chapiteaux et irrigue de nombreux territoires. Il y a 13 pôles nationaux en France qui ont été identifiés. Ce sont des lieux où il y a eu une histoire majeure avec la renaissance du cirque qu'on a appelé le nouveau cirque, le cirque contemporain.
La différence, elle est quoi ?
Esthétique.
Il n'y a pas de ménagerie, ça se joue à quoi ?
Alors, clairement, il n'y a pas d'animaux dans le cirque, dans le nouveau cirque.
Contemporain,
Et puis, il y a un rapport esthétique qui a été totalement renouvelé.
Le cirque du soleil ? Par des
nouveautés ? Non, le cirque du soleil a totalement été inspiré par le mouvement. C'est vraiment un mouvement français. Le cirque contemporain est né en France. D'accord. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Ça a été une révolution qui s'est accolée au théâtre et à la danse, en fait. Parce qu'il y a en France, il y a eu une dame, Annie Fratellini, qui a travaillé à Nexon, justement, là où je travaille.
Qui a une académie
qui avait une académie et qui a formé.
Toujours.
Qui a formé des artistes en dehors des cercles familiaux, dits traditionnels.
On a créé
un schisme, en fait, puisque plein de gens se sont emparés des techniques de cirque avec une autre culture, justement, qu'une culture de tradition des familles. Et on commençait à créer le nouveau cirque.
Ça continue, cette académie, elle est parisienne, je ne sais pas s'il y en a partout en France, mais il y a des écoles de cirque, il y a des académies comme ça où on peut apprendre tous les arts de l'équilibre, jongler, faire rire, jouer, danser.
C'est un bel exemple de décentralisation. À Châlons, en Champagne, vous avez la plus grande école internationale de cirque contemporain qui forme tous les acrobates, le clown, la jonglerie, le magicien.
On parle un tout petit peu des initiatives comme le Centre Pompidou-Metz, comme Louvre, Lens. Ça va dans le sens que
Oui, ça va dans le bon sens parce que ce sont des projets qui sont installés en région. Tout à l'heure, vous parliez des festivals. Il faut se méfier des fois. Les festivals, c'est aussi un peu ça va, ça vient, et puis il se passe rien le reste du temps.
C'est ça.
Ce qui est important, si on veut que les citoyens et les citoyennes aient un vrai rapport à l'art, il faut que ce soit journalier, que ce soit vraiment quelque chose au quotidien. Et pour ça, il faut des projets qui soient implantés à long terme.
Alors justement, quelle initiative pour vous serait l'idéal ?
Une initiative idéale.
Le festival Culturissimo dont on parle, pour vous, ça va dans ce sens-là ?
Bien sûr, toute initiative, de toute façon, est bonne à prendre. Exactement.
Après, c'est pas un rêve, vous ?
Un rêve que le président de la République s'exprime enfin, qu'on ait enfin un président qui s'exprime sur une politique artistique et culturelle pour la France. Et si vous me permettez, c'était très intéressant ce que vous disiez, et aussi que notre ministre de la Culture s'attaque réellement au problème du harcèlement sexuel dans notre métier. Parce qu'actuellement, il y a pas mal d'affaires qui sont sous le tapis et qui ne sont absolument pas traitées en France.
Merci beaucoup d'être venu, Martin Palis, à ce micro. Merci. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du SYNDEAC, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour.
Chaque événement désormais a sa théorie du complot.
Oui, incendie à Notre-Dame de Paris, vous pouvez pas imaginer le nombre de gens qui pensent que c'est un attentat. Certains ont même vu un gilet jaune là-haut lundi soir. Ils étaient à la vache, il a la rage, Éric Drouet, il vole. On refuse de voir que tout est fragile. Un claquement de doigts et c'est fini.
On en parle tout à l'heure. Oh, originale avec Léna Kadoboudadi.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Alexis Rossignol. Tom Villa.
Bonjour Nagui.
Et notre invité, Hippolyte Diallo.
Bravo. Bonjour. Enfin bonjour, 12h, ça va, c'est bon. Bon après-midi.
Bah 12h06, ouais.
Oh, bon après-midi.
C'est gentil de donner l'heure de temps en temps comme ça, c'est agréable.
Oui.
Le rendez-vous de la culture en région, rendre la culture accessible à tous au cœur des villes de notre pays, c'est ce que Michel-Édouard Leclerc a décidé et fait. Avec ses magasins. Alors, est-ce que ça se passe
680 dans... magasins en France.
Ça se passe dans les magasins ou ça se passe
c'est
dans
les rayons,
ça se passe.
Alors, oui, ça serait pas mal de trouver un truc dans les rayons, c'est pas mal. Lecture, improvisation, masque.
Non, chaque fois, ce sont dans des musées, ce sont dans des librairies, dans des lieux.
Ils essayent à chaque fois les patrons des centres Leclerc essayent de trouver un lieu qui soit un lieu très connu de la ville et ils font un arrangement avec ou un théâtre ou un gymnase parfois ou avec voilà des lieux comme ça qui sont des lieux un peu emblématiques, ça peut être une salle de fête, des lieux un peu emblématiques de la ville.
Alors à Ancenis, Nicole Garcia lira La Tâche de Philippe Roth. À Sens, ça sera au Théâtre de Sens. Michel Villermoz, la Comédie Française, lui, sera au Casino de Bagnoles de l'Orne à la Ferté-Massé. À Niort, il sera au Moulin du Roc sur la scène nationale. Et à Périgueux, à la médiathèque de Trélissac. Quant à vous, vous serez au Musée de l'Abbaye Sainte-Croix au Sable d'Olonne le mardi 7 mai. Ça vous va ?
Parfait,
c'est le mardi 7 mai.
Et sur la plage à La Réunion.
À 20h et à la plage.
Oui,
Transat 72.
Voilà. Non, et puis au Sable d'Olonne également, le mercredi 12 juin, cette fois-ci, toujours au musée de l'abbaye de Sainte-Croix, c'est Clotilde Courau qui lira Tu t'appelles les Maria Schneider de Vanessa Schneider. Jacques Bonafé, lui, sera à Vernon, à l'Auditorium, puis à la Rochefoucauld également, au Cloître des Carmes. Enfin, ce sont des. Il y a beaucoup de lieux comme ça qui vont vivre. Des concerts également, concerts de Dionysos.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement
Il y a des concerts qui ont lieu à la Comédie Française, comme ceux de Camélia Jordana. Pas du tout, c'est pas du tout, n'importe quoi.
Camélia,
mais non,
ça change d'échelle.
C'est pas du tout à la Comédie Française. Mais j'ai pas les scènes où ça se passe. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a beaucoup de concerts. Pigalle, j'adore Pigalle.
Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs.
Pigalle, ils seront le 20 juin à Nantes, Paradis et Atlantis, au Ferrailleur, exactement. Yarol Poupeau sera à Ancenis, au domaine des Lys.
Yeah. Toute la musique que j'aime.
Ça se dit, il a beaucoup joué avec Johnny.
Ça sent.
C'est Camélia qui a inauguré en fait.
Ça s'est déjà fait, oui, absolument. Ouais. Et elle sera le 15 mai au théâtre Rive Gauche. Bref, beaucoup de lectures, de concerts, de spectacles. Alexis, je t'en prie.
Pas demandé si c'était gratuit ou payant.
C'est gratuit.
C'est gratuit.
On l'a dit.
Okay, donc c'est les produits qui sont vendus chez Leclerc qui vont être plus chers. Pour financer.
Mais toujours le soupçon. Période, on ne peut pas imaginer qu'un truc soit gentil.
69 euros le cassoulet.
Tu vois, on est juste, on vient juste d'entendre aux infos que François Pinault renonçait à l'abattement fiscal sur le don de 100 millions qu'il donnait à Notre-Dame. Il y a des gens qui font aussi des choses pour juste faire plaisir. Comme Tanguy Pastureau, il est là pour faire plaisir. Justement, Tanguy, la destruction par le feu de Notre-Dame de Paris vous a, nous a tous attristés.
Oui, lundi soir, quand c'est arrivé, j'étais sur le point de chialer, mais je suis un mec à l'ancienne et j'ai retenu mes larmes. Je suis old school. Moi, si je me fais mordre par un crotal, je dis crotal, oh, ça va, hein, viens de battre. Et puis seulement après, je convulse et je meurs. Oui, je suis triste, mais comme c'est mon état naturel, puisque je suis plus névrosé que Loana et l'ensemble des fans de Dominica réunis, ben, ça se voit pas trop. Les humoristes, il faut le savoir, dans la vie, sont en général très plombants. Même les Baudins, vous les prenez en sortie de scène sans leur tracteur et les cochons, je suis sûr qu'ils carburent aux Xanax et devise de la vision de la mort qu'avait Platon. Et puis, Notre-Dame qui brûle, c'est affreux, ça aurait dû être l'Arche de la Défense, la Pyramide du Louvre, les colonnes de Buren, toutes ces petites merdes semées par Jack Lang qui auraient eu la même existence qu'un lapin. Quand j'ai vu Stéphane Bern les larmes aux yeux à la télé, j'ai eu tellement pitié que je me suis surpris à espérer qu'il nous éclate au prochain sondage radio, afin que ça le console un peu. Et puis, tout paraît fragile, Notre-Dame avait traversé les époques, comme Alain Juppé, mais en cathédrale. On se disait, elle existera toujours, et on réalisait
répéter que édifice comme humain, nous ne sommes rien. On essaye d'être fort. Booba, Caris vont se taper dessus comme les idiots qui se partagent un euro des deux qu'ils sont. Trump monte un mur, Kim Jong-un menace, Merkel enfile des tailleurs vert pomme pour faire fuir ses ennemis, les gens de bon goût. Mais au fond, nous sommes tout petits, vulnérables. La preuve, c'est que moi, même en mettant Axe pour homme, je me suis pas senti plus sûr de moi. Aucune femme n'est venue me sentir sous les aisselles. Alors que dans les pubs, bah, les gens font ça. Ils envisagent la vie sous le même angle que les Yorkshire ou 60 cm plus haut. Donc, quand on réalise qu'on est tout nul, qu'on va vivre au mieux 80 piges et qu'ensuite les vers vont nous bouffer, ce sera leur revanche sur ce qu'on leur a fait à Koh-Lanta. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on refuse. On dit non, je suis un bonhomme, moi. À Hippopotamus, on prend l'entrecôte de 2 kilos en criant je suis pas comme ces fiottes de vegan. Ou dans le cas de Notre-Dame, on pense attentat. Ben oui, une bête pareille qui a passé 800 ans à voir défiler des gens, dont les 30 dernières années des touristes en short, ne peut pas disparaître en une soirée. C'est irrationnel pour nous. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, hier, a ainsi dit sur BFM, des gens dans la rue m'ont dit ce matin, dites à la télé qu'on veut savoir si c'est un accident ou un attentat. En même temps, si on se met à relayer dans les médias tout ce qu'on nous dit dans la rue, moi, je dois préciser que ce matin, on m'a dit, il est comment, Daniel Morin, en vrai, hein, et j'ai répondu, humainement pas partir. Top, hein, mais enfin, il écrit bien. Ah, alors, d'autres sur Internet ont cru voir une silhouette humaine en haut de Notre-Dame, hein, ils ont écrit, regardez, c'est un terroriste, hein, le seul terroriste qui reste à 10 mètres des flammes, un habitué des feux de camp, hein, derrière, il s'apprêtait à faire Hôtel Californie à la gratte sèche. En fait, c'était une statue de la Vierge. Mais c'est comme le Loch Ness. Un jour, il y a un type qui a photographié son fils sous l'eau avec juste la tête de Saboué Canard qui dépassait. Tout le monde a vu un monstre.
Bon, cet incendie a quand même provoqué aussi un élan de générosité.
Oui, notamment chez les ultra-riches. François Pinault a débloqué 100 millions d'euros. Bernard Arnault, une heure plus tard, annonçait 200 millions. C'est comme un concours de celui qui fait le pipi le plus loin, mais sans urine. L'Oréal, 200 millions. Du coup, Martin Bouygues, qui a mis 10 millions, ses amis l'appellent pour lui dire « Qu'est-ce qu'il y a, Martin? T'as des problèmes d'argent ?» C'est un rapide. Alors, bien sûr, on va rebâtir. L'être humain, c'est comme le castor, mais au moins gracieux. Quand ça s'effondre, il rebâtit. Mais ça sera jamais comme avant. Une charpente de 800 ans, c'est magique. On imagine la vie des gens qui l'ont construite. Ils y consacraient leur existence, ce qui en même temps est peu puisqu'ils vivaient 25 ans. Et là, dans 10 ans, quand on visitera la cathédrale refaite, on nous dira alors nous sommes sur des poutres en chaîne qui ont 18 mois, financées par LVMH. Regardez, ils ont gravé le logo Vuitton dessus. Mais pour rêver, ça va être moins simple. C'est le temps qui donne sa valeur aux choses. Personne n'a envie de boire un Bordeaux de 2018. Et regardez Jean-Pierre Elkabbach, quand il interview Bruno Le Maire. Bon, il n'entend plus trop ce que l'autre lui dit. Il ne sait pas si c'est une platitude ou une platitude. Mais on s'en fiche parce qu'on vient le voir lui. Il est tanné comme un pouf de démonstration chez Fly. C'est une légende. Le temps a fait d'Elkabbach une curiosité. Et des Notre-Dame, il risque d'y en avoir d'autres parce que historiens de l'art spécialistes disent par exemple que l'église de la Madeleine, plus connue sous le nom d'église à Johnny, hein, il y a plus de bananes là-dedans qu'au rayon fruits chez Franprix, pourrait y passer elle aussi. Ils expliquent que rien n'est aux normes. Il y a des prises électriques qui pendent et toutes les églises tombent en ruine. Et le patrimoine en général. On met 2-3 bouts de scotch, on fait à notre héritage architectural, ce que les Algériens ont fait pendant longtemps sur Bouteflika. Un peu de colle à bois, on pense que ça va tenir. Mais le souci, c'est que nos ancêtres ont fait tellement fort que nous, on se retrouve comme des buses. On est à peine capable de garder en l'état ce qu'on fait. Nous, on monte l'Opéra Bastille, en 10 piges, la moitié des dalles sont par terre. On est minable, on est nul. Je n'aimerais pas être Stephen Bern, parce qu'il voit tout ce qui est en train de tomber sans quasiment pouvoir rien faire. C'est un joueur de Tetris manchot. Alors franchement, j'espère au moins qu'il va cartonner au prochain sondage radio.
Merci.
Sur France Inter.
J'avais pas compris la chute.
Il portait le mauvais œil.
C'est jeudi, non? C'est jeudi qu'on aura nos audiences.
C'est presque demain.
Radio, c'est pratiquement à peu de choses près, à 24 heures près. Ça a déjà commencé donc Culturissimo et c'est la 6e édition. Vous y participez depuis plusieurs numéros, Hippolyte Girardot. Trois, avec un malin plaisir, celui du partage, ouais. De rencontrer le public aussi. Et oui. Ce public, est-ce qu'il a un point en commun?
La curiosité, curiosité, toujours. La curiosité déjà de te voir en vrai, c'est marrant, c'est gratuit, hein, c'est sympa. De savoir si tu peux faire des selfies avec, pourquoi pas, tati, hein, tous ces machins. Et puis aussi ce...
Vous verrez que vous décrivez Nagui, là.
Ce plaisir, non, mais ce plaisir...
Attends, il parle pas de l'âge encore.
Ce plaisir d'écouter une histoire, quoi. C'est vraiment ça se sent dans la salle.
Et le public est vraiment à l'écoute. On se demande toujours si finalement, lors de ces lectures, on n'a pas une partie de la classe qui est dissipée.
Parce que personne n'est obligé de venir.
Ouais,
Et le fait que ce soit gratuit, une sorte d'échange de bons procédés finalement.
Ouais.
Par moment, quand c'est gratuit, on respecte moins ce qui se passe sur scène.
Ça dépend. Si vous n'êtes pas obligé de venir, il y a quelque chose
Mais on n'est jamais obligé de venir.
Non. Donc si, à un moment donné, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que si non, on veut voir un spectacle,
quand
on paye.
Sorties, quand t'es sorti scolaire, oui.
Non, mais à la fin, on paye,
donc,
de venir,
on, évidemment, on a envie. Alors, on paye, on est content, etc. Mais il y a une sorte d'exigence.
Et on reste.
Genre, est-ce que c'est vraiment à la hauteur de ce que j'ai dit?
Oui, mais Hippolyte, on reste jusqu'au bout d'un film, jusqu'au bout d'un spectacle, parce qu'on a payé. Si on n'a pas payé, on
peut
être
tenté. Il y a des fois, on aimerait bien qu'il y ait un petit entracte, un machin en milieu, pour se casser, quand même.
Ça sent le vécu. Ça sent un peu le vécu.
Je parlais de l'âge. Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge? Est-ce que ce sont aussi bien des enfants que des grands-parents qui peuvent venir à ce genre de lecture? Est-ce qu'ils viennent en fonction du...
Ça dépend vraiment de...
Du livre qui est lu ou de l'artiste?
En général, ce sont des... C'est pas tellement des familles, c'est plutôt des gens qui non plus qui travaillent pas spécialement le lendemain. J'ai jamais fait une analyse vraiment...
sociologique du public,
non,
ouais.
Sociologique du public. Je sais pas si ça correspond aux gens qui achètent dans les centres de guerre, je sais pas du tout.
Des gens un peu seuls aussi
ou... Et vous ne savez pas s'ils viennent pour...
Il y a beaucoup de gens, parce qu'en fait, c'est une sorte de réunion... Enfin, dans les petites villes, c'est aussi une sorte de réunion, ouais, quoi. Les gens se retrouvent pour ce festival qui commence à faire son chemin dans les régions à force d'exister, et donc les gens se retrouvent là, ils sont...
Est-ce que la participation donne des points sur la carte Leclerc?
problèmes,
une fixette, hein.
Mais c'est dingue.
Regarde, ça intéresse les gens.
C'est dingue.
Oui, bien sûr. C'est dingue. Je pense pas que ce serait intéressant, en fait.
La valeur essentielle, Hippolyte Girardot de Culturissimo, justement, c'est le partage.
Le partage, oui, bien sûr que c'est le partage. Évidemment, il y a quelque chose de se réunir. Enfin, comment dire, se réunir pour rien, c'est formidable. C'est aussi formidable que se réunir pour quelque chose. Ça paraît idiot ce que je viens de dire, donc je vais essayer de développer. Ce que je veux dire, c'est que se réunir juste pour écouter quelqu'un, vous dire un texte, on ne s'est même pas engagé à payer quoi que ce soit. Tiens, c'est tel soir, on va y aller, on va écouter ce texte de Philippe Lançon, je ne sais même pas qui c'est Hippolyte qui ça, Hippolyte, et bon, on va y aller. Ouais. Il y a quelque chose de formidable. Franchement, il y a quelque chose de formidable.
Mais justement, on va se réunir pour écouter un texte.
Formidable.
Pour rien.
Non.
C'est
ah oui.
Daniel Morin, c'est gratuit.
Bon, vous en avez entendu parler. Avant-hier, Notre-Dame de Paris a connu un coup de chaud. La cathédrale, incroyable témoin de notre histoire, a failli être rayée de la carte Paris et de la carte de la mémoire solide de l'humanité. Du coup, les donateurs sont mobilisés comme jamais. Il nous en a parlé, Tanguy, Pinault, Arnaud, L'Oréal, Total, plus un financement national qui va être organisé. On est en 24 heures à environ 1 milliard d'euros. C'est hyper impressionnant tout ça, quand même, hein. France Inter Flash spécial, c'est du jamais vu. En moins de 24 heures, près d'un milliard d'euros ont été collectés. Et du coup, et comme l'a souhaité le président Emmanuel Macron, les travaux de réhabilitation de la cathédrale seront peut-être achevés d'ici 5 ans. Ah bah c'est clair, à ce rythme-là, avec tout l'argent qui déboule, ça va pas traîner, hein. Je pense que même d'ici un an, on peut faire un point. France Inter Flash spécial, un an quasiment jour pour jour après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, les travaux de réhabilitation sont officiellement terminés. La cathédrale sera réouverte au public dès demain. Le budget de 900 milliards d'euros a grandement facilité la tâche. Ce qui se fait de mieux dans tous les corps de métier a été débauché à grands frais. Le chantier de 800 ouvriers qui travaillaient tous en même temps et de façon coordonnée grâce au talent de chef d'orchestre de Jacques Attali, embauché lui aussi pour l'occasion. C'est Jean-François Piège qui assurait le service de la cantine mobile pour que les ouvriers soient heureux, des ouvriers chouchoutés à l'extrême. Ils étaient tous logés au Crillon et au Ritz, dans des suites spacieuses où tous les soirs les attendaient des professionnels de la détente, qu'on appelle aussi en langage technique de la relaxation, des putes. Le résultat est remarquable. Écoutons le message de promotion pour les visites de la cathédrale restaurée. Ça y est, le miracle a eu lieu. Notre-Dame de Paris est à nouveau vaillante. Une réhabilitation express dont le résultat est tout simplement époustouflant, une nouvelle armature commandée spécialement à la NASA en pierre de lune, une pierre réputée indestructible, une charpente recouverte de peinture à la poussière de météorites venues de la planète Mars pouvant résister à des températures de 200 000 degrés. Pour la décoration, les nouveaux sièges ont été recouverts par Chanel, le nouvel hôtel est signé Jeff Koons, les murs sont tous recouverts de cuir inifugé posé par le maroquinier Hermès. Hermès qui, en petit bonus, a également fourni une soutane en cuir au curé de la cathédrale. Soutane plus accessoires en cuir, eux aussi, à savoir la cagoule, les cuissardes et la petite boule pour la bouche. La grande horloge extérieure a été faite sur mesure par les ateliers Rolex. Une horloge dont les aiguilles en platine ont été manufacturées chez Cartier. Quant aux chiffres de 1 à 12, ils ont été composés de pierres précieuses directement de chez Van Cleef et Arpels. Notons enfin que les colonnes sont toutes plaquées or 24 carats, une décoration de colonne inspirée directement d'une photo de la salle de bain d'un célèbre animateur radio-télé dont les goûts en matière de décoration d'intérieur sont fortement inspirés d'un de ses ancêtres, direct, le grand Toutankhamon. Alors, voilà, mes amis, Notre-Dame est de retour. Bon, j'exagère un petit peu. N'empêche que le milliard d'euros récolté en 24 heures,
c'est vrai.
Non. Alors, tant mieux, si, on y est presque, tant mieux pour Notre-Dame. Mais quand je vois qu'on peut soulever de telles fortunes en si peu de temps, je signale juste à tous les hyper généreux qui sont manifestés en dégainant si vite leur chéquier qu'en France, on a besoin d'argent pour réhabiliter d'autres bâtiments, comme l'Opéra Bastille ou l'église de la Madeleine, Tanguy Pastureau a raison. Mais pas que. On a besoin d'argent, et beaucoup, pour aussi construire des logements pour les SDF, pour les migrants, des structures d'accueil pour les femmes battues qui parfois ont des enfants et n'ont nulle part où aller, financer aussi la recherche médicale, sauver les agriculteurs, redonner de la dignité aux seniors, donner un futur aux enfants, j'en passe et je m'en excuse. Un milliard en 24 heures, c'est génial pour Notre-Dame, mais l'argent est là, c'est formidable, notre cathédrale va à nouveau briller de mille feux, alors continuons et n'hésitons pas à mettre aussi de l'éclat, de la lumière, là où il y a encore un peu trop d'ombre, et je suis sûr que Notre-Dame sera d'accord avec moi. À demain.
Oui, bravo, la bande originale avec Nagui. Oh, je pense même qu'on peut redoubler d'applaudissements.
Ouais.
Vous pouvez me donner de l'argent si vous
voulez.
Bon, j'aurais essayé.
C'est gratuit.
Sur la SCI Morin & Co.
Je l'ai dit avant, j'ai dit pour rien.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de budget. Hein.
Pour rien.
On ne sait pas combien ça va coûter la reconstruction. Il y a peut-être déjà plus que.
En tout cas, c'est bien parti. Hein.
Un milliard d'euros. Non, ouais,
y a pas, le problème, c'est qu'il n'y a pas les artisans. Oui.
Alors,
c'est un peu compliqué. Non, mais c'est vraiment un peu compliqué.
Ça ne sera pas simple, mais il y a quand même des artisans. La preuve, c'est qu'elle était
pour fabriquer
elle était en rénovation.
Non, mais pour avoir des flèches qui sont capables de le faire, c'est quand même 10 ans de formation pour être vraiment un bon.
Alors perso, je connais deux Polonais qui travaillent hyper vite et hyper bien.
Non, mais là vous n'avez pas tort.
C'est que je n'ai pas tout à fait tort, effectivement.
Vous n'avez pas tout à fait tort sur tout ce que vous dites. Non, mais en l'occurrence, c'est formidable qu'il y ait autant d'argent réuni, et j'imagine qu'il y a des sociétés françaises aussi, de manufacture, de charpente, de construction, de sculpture, que sais-je.
Les meilleurs ouvriers de France.
Les meilleurs ouvriers de France, les compagnons qui ont fait un travail.
Il en manque.
Mais
ils ont beaucoup de problèmes, les compagnons du devoir, depuis un certain nombre
d'années. C'est le temps qui va manquer. Parce que c'est pas en mettant de l'argent que l'on va gagner du temps. Il faut quand même du temps pour y arriver.
Bien sûr. Non, mais c'est très compliqué.
Ça risque de prendre beaucoup de temps.
Déjà, il faut
complètement. La Sagrada Familia, quand même.
Non, mais il faut évaluer déjà la fragilité. Il faut évaluer la fragilité du bâtiment après ce qui s'est passé. C'est très compliqué, même rentrer à l'intérieur, bouger quoi que ce soit, c'est déjà très compliqué. Ça va prendre un temps incroyable.
Mais ce qui est fort, c'est que cette dame fait partie presque de notre famille. Elle a été touchée, que ce soit, encore une fois, au-delà de toutes les religions, au-delà de toutes les catégories sociales, il n'y a pas une personne qui n'ait pas eu un petit pincement au cœur en voyant ces images ou en apprenant ce qui se passait. Sans tomber dans la polémique des dons du mécénat ou de la com qui est faite, mais c'est vrai qu'elle trouve un écho en nous.
Oui, c'est tout à fait étonnant que ça fonctionne
comme un membre de la famille. Ouais, quoi. C'est fou, à ce
point. C'est-à-dire qu'on est très lié à cet objet moyenâgeux, quand même, au départ, qui a été réactivé à travers des bouquins, des choses comme ça, tout le temps, comme une espèce de base. C'est vraiment l'endroit, cette île de la cité, c'est vraiment là où on a commencé à créer cette ville. Quoi.
C'est là où on calcule les distances, d'ailleurs.
Ouais,
c'est à partir de là.
Et moi, je suis passé le soir où ça brûlait, parce que en vrai, il y a quand même quelque chose en trois dimensions qui est très différent de ce qu'on voit à la télévision, qui a d'ailleurs filmé assez mal tout ça, je trouvais. Bon, bref, c'est autre chose, ça. Et c'était étonnant de voir les regards des gens vers cet objet. C'était dantesque, en fait, la façon dont on essayait de l'éteindre. C'était tout petit, c'était vraiment... Il y avait une sorte de comme si les gens voulaient absolument souffler de l'eau pour éteindre le feu. Il y avait bien au-delà de la religion, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient là, qui chantaient des chants religieux. C'était à la fois merveilleux et pathétique, quoi. Ils étaient 4-5 en train de chanter des petits chants religieux devant un espèce de monument hallucinant, parce qu'on est en bas de la cathédrale quand même. Elle est immense, bien plus immense que quand elle est filmée à la télévision. Elle est immense, quoi.
Absolument.
Et Victor Hugo.
Oui.
A décrit un incendie
qui n'a pas pu venir ici.
Magnifique, qui raconte ça, et c'est un texte à lire, parce que c'est encore plus fort que
rupture de stock.
Oui, ça c'est génial. C'est comme Paris est une fête qui était partie juste avant.
Ouais, c'est ça. Ça relance les ventes.
C'est drôle.
Justement, on retourne au livre et à la lecture avec le festival Culturissimo, la 6e édition qui a débuté et qui se poursuivra jusqu'au mois de juin. J'imagine qu'il doit y avoir un site internet sur lequel on peut retrouver toutes les dates de toutes les villes où il se passe des choses.
Jusqu'à la fin juin.
C'est jusqu'à la fin juin, très bien. Mais dès qu'on m'aura donné l'adresse du site, je me ferai un bonheur et un plaisir de vous la donner. En attendant, vous travaillez sur le Bureau des Légendes, mais sur l'écriture du Bureau des Légendes.
Oui.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Vous savez, Éric Rochon, il a...
Je vous ai choqué par ma question ?
Non, expliquez-vous.
C'est un peu choquant.
Oui, expliquez-vous, jeune homme. Bah, écoutez, je fais ce que je peux.
Parce que vous jouez, tout à l'heure, vous nous avez dit que pour Culturissimo, vous n'aviez pas choisi le roman que vous alliez lire, vous n'avez pas choisi les extraits qui avaient été choisis, voilà. Et là, sur Bureau des Légendes, j'ai envie de vous dire, bah, vous êtes acteur, attendez de recevoir les lignes et les textes, et là, vous dites, non, je participe à l'écriture.
Voilà l'histoire. Éric Rochon, après, c'est un ami, enfin un copain depuis très longtemps, et quand il a commencé à penser au Bureau des Légendes, moi j'ai vu comment il avait créé ce pool d'écrivains pour fabriquer le Bureau des Légendes, c'était tout à fait unique en France à l'époque quand il a commencé, maintenant encore d'ailleurs, je crois que ça reste, avec l'idée même du showrunner, et moi j'étais très curieux de voir comment ça se passait, donc je lui ai demandé d'assister pendant la saison 2 je crois, d'assister à la façon dont il fabriquait le truc, et puis à un moment donné il m'a demandé d'écrire une scène, il m'a engagé en disant voilà, ça marche très bien, donc j'ai travaillé sur la saison 2 et sur la saison 5 qui est actuellement le fait, mais j'écris simplement, je fais que
ça. Oui, non mais simplement, et comment rester objectif dans son travail, comment cloisonner son travail d'auteur et d'interprète?
Non mais ça, vous savez, écrire dans cette série, c'est un travail extrêmement technique. C'est-à-dire qu'il y a des impératifs très compliqués, il y a des protocoles très très intéressants, mais qu'il faut vraiment intégrer.
Pour respecter ce qu'on appelle la Bible de la fiction.
Oui, c'est assez coercitif dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on est très cadré. Donc évidemment, c'est très intéressant de faire travailler son imagination dans un cadre extrêmement serré. Quoi. Pour moi, ça me passionne.
Vous serez prochainement à l'affiche des films Je ne rêve que de vous, de Laurent Heydemann avec Elsa Zieberstein, Émilie Dequen, et également de La Daronne de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert.
Oui.
Ces films ont été tournés ou vous allez...
On a tourné en été et en automne. Voilà, donc ça sortira dans l'année, je ne sais pas exactement quand.
Très bien, et on vous retrouve, on l'a dit, dans Par Jupiter à 17h, c'est un jour par semaine ?
Un jour par semaine.
Ça vous suffit ?
Oui, parce que parfois c'est très compliqué. Alors j'essaie d'écouter le matin la chronique de mon collègue, en me disant maintenant qu'il a fait ça, c'est mort. Donc qu'est-ce que je vais faire ?
Faut pas les écouter. Personne ne s'écoute sur cette antenne.
Oui, mais il faut s'écouter dans la vie. Ils sont terribles. Hein.
Culturissimo, j'ai l'adresse internet. Ah. Vous allez donc sur le web, c'est culture.leclerc.com et vous aurez et la ville et la date et ce qui s'y passe près de chez vous. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour Anna Girardot que Nagui a appelé Sarah. Alors déjà que son père Frédéric s'appelle Hippolyte, si Anna peut plus s'appeler Anna, où on va les gars ? En même temps, Sarah, c'est pas mal comme prénom. Hippolyte Ofredo, vous êtes d'accord avec moi ? Désolé pour Michel Villermoz qui, dans le cadre de Culturissimo, ira lire Les Misérables à Niort. Bon, ça va Michel, ça pourrait être pire. Hein. Josiane Balasco, elle va à Cherbourg. Et ça ira la Réunion, Hippolyte ? Bon voilà, c'était juste de me demander. Désolé pour Carrefour, Auchan, Monoprix, Casino et tous les autres hypermarchés. Aujourd'hui, il n'y en avait que pour Leclerc. En même temps, en ce moment, chez Leclerc, le poulet bio est à 7,99 le kilo.
Ah ouais, on a fait la totale.
On est accompagné là.
La totale, très bien. Demain, Jean-Christophe Ruffin sera notre invité de l'Académie Goncourt. Sera
française.
L'Académie française.
Ouais.
Bah oui, française. Mais il a eu Goncourt.
Oui, il l'a eu. Ouais.
Prix Goncourt, c'est ça.
Oui, il a eu pour exact.
Double, il est le double. Merci beaucoup, Hippolyte.
Merci à vous.
Merci mille fois d'être venu. Festival Culturissimo, donc sur internet, culture.leclerc.com.